C'est encore avec plaisir que nous vous retrouvons pour cette nouvelle émission dans notre série consacrée à l'espérance au regard de la Bible et au travers de ses textes. Une nouvelle fois aujourd'hui, c'est avec Philippe Denet que nous poursuivons cette série. Bonjour Philippe.
Bonjour Gaël et bonjour tous les auditeurs.
Et donc nous découvrons ce texte qui a été écrit il y a combien, 600 ans avant Jésus-Christ,
Philippe? Oui, 600 ans avant Jésus-Christ, oui.
Voilà. Et donc dans ce texte, il est question d'un rêve que fait le roi de Babylone et qu'il n'en trouve pas l'explication, et Daniel lui a porte donc le rêve, parce qu'il ne se souvient pas de son rêve. Donc le rêve, c'est celui d'une statue dont la tête est en or, et le prophète Daniel explique qu'il s'agit du royaume de Babylone. La statue a également une poitrine et des bras en argent qui représentent l'empire médo-perse qui va prendre la succession en 539 de ce royaume de Babylone. Et puis ensuite, un troisième royaume viendra, représenté par le ventre et les cuisses en bronze, cette fois-ci, donc l'armée grecque sous l'autorité d'Alexandre le Grand. Il nous reste donc deux entités à découvrir, et je vous propose qu'on commence par le quatrième de ces royaumes déjà.
Oui, je vous avais laissé deviner quel était ce royaume qui succéderait aux Grecs et qui deviendrait le plus grand empire organisé de cette époque, et sans doute que vous l'avez reconnu. Alors, poursuivons cette lecture du livre de Daniel au chapitre 2, verset 40. « Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. » L'Empire romain s'installe en Grèce en 146 avant Jésus-Christ et dure jusqu'en 476 après Jésus-Christ. Le pasteur Louis Gossen, dans son livre « Daniel le prophète », explique le caractère particulier de ce quatrième empire. Je vous cite. « Le quatrième empire était de fer, de fer. On ne peut mieux définir le caractère des Romains. Tout en eux était de fer. Leur gouvernement était de fer, inflexible, dur, écrasant, impitoyable. » Leur courage était de fer. Jamais peuple ne fut plus redoutablement armé dans les combats. Leur cœur était de fer. Jamais ils ne connurent la pitié. Ils faisaient couler le sang des hommes comme de l'eau. Et l'historien Edward Gibbon, reprenant les images symboliques de Daniel, il décrit cet empire de la façon suivante. Je vous cite. « L'empire romain remplissait le monde et quand cet empire tomba aux mains d'une seule personne, le monde devint une sûre et triste prison pour ses ennemis. » Résister était fatal et il était impossible de fuir. Il me semble que nous avons suffisamment de preuves que l'Empire romain a été le plus grand des royaumes de cette époque. Chaque empire qui a renversé le précédent est devenu plus grand et plus fort en matière de domination jusqu'à la chute en 476. La prophétie nous laisse comprendre qu'après celui-ci, il n'y aura plus d'empires tels ceux qui nous ont été présentés avec Babylone, les Mèdes et les Perses, ainsi que les Grecs, mais que le royaume de Dieu s'y installera.
Vous dites que Rome est le dernier des royaumes, mais la statue est incomplète. Il reste encore les pieds, si je ne me trompe pas, en argile.
Vous avez raison, et je vous invite à découvrir les versets suivants. Verset 41. « Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer. Parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile, et comme les doigts de pied étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. » Je vais vous lire la note du livre « À l'écoute de la Bible » concernant cette prophétie. Nous nous trouvons face à une prophétie qui a été annoncée 6 siècles avant Jésus-Christ. Daniel nous prédit qu'à l'empire de Babylone succéderait un second et un troisième et un quatrième empire. Alors sans doute, un incroyant pourrait-il faire observer qu'une telle prédiction n'est pas en soi extraordinaire. En effet, avant celui de Nebuchadnezzar, bien des royaumes avaient existé sur la terre et Daniel n'ignorait pas qu'aucun de ceux-ci n'avait survécu. Tôt ou tard, ils avaient été détruits et remplacés par d'autres. Aussi, pourrait-on admettre qu'en s'inspirant du déroulement de l'histoire passée, Daniel aurait pu sans courir le risque de se tromper, annoncer que l'empire de Babylone serait supplanté par un second empire, puis le second par un troisième, et ainsi de suite. Mais justement, il est remarquable que Daniel ne parle pas d'une série indéterminée d'empires successifs, il mentionne seulement 4 empires universels.
Effectivement, et l'histoire d'ailleurs confirme que Rome fut le dernier de ces empires universels.
Oui, il fut le dernier. Mais pour les sceptiques de bonne foi, je désire évoquer un autre argument de la même source. Ce sont les détails fournis par Daniel à propos du quatrième empire symbolisé par les jambes et les pieds de la statue. Au verset 41, il est dit « Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. » Alors, cette prophétie, s'est-elle réalisée? Et si oui, comment? Nous constatons un empire dur, comme le fer, nous dit la prophétie, mais dont les pieds deviennent fragiles en se mêlant avec l'argile. Et ces pieds se divisent en 10 parties. Ces 10 parties correspondent aux orteils que la prophétie a soigneusement précisés. Les 10 orteils représentent la division finale de l'empire romain. Et j'attire l'attention que la prophétie ne précise rien sur les 2 jambes, mais qu'elle est bien focalisée sur les orteils. Au 4e et surtout au 5e siècle de notre ère, les 10 nations qui contribuèrent le plus à la chute de l'Empire romain et qui ont occupé les territoires, et ceci en tant que petits royaumes séparés et indépendants, sont historiquement connues. Je vous les cite, les Burgondes, les Ostrogoths, les Visigoths, les Lombards, les Vandales, les Francs, les Alamans, les Anglo-Saxons, les Hérules et les Suèves. Et nous entendons à travers quelques noms cités les états actuels de notre Europe.
Mais si je ne me trompe pas, les livres d'histoire nous parlent aussi des Huns.
Oui, et cela ne s'est pas fait en une fois. Cela a commencé aux environs de 331 après Jésus-Christ. Des troupes barbares, Goths, harcelaient l'Empire. Et plus tard, vers 410, ces Goths commandés par Alaric assiégèrent Rome, la capitale, et la livrèrent au pillage. C'est alors qu'attaqués de toutes parts, et sur la péninsule et en Gaule, aussi bien que dans ses territoires d'outre-mer, Afrique du Nord et Asie mineure, l'Empire romain connut une terrible débâcle, et il s'effondra. En 476, Romulus Auguste, qui était le dernier empereur romain d'Occident, fut déposé par Odoacre, ce roi des Hérules, issu d'une tribu germanique, est un ancien dignitaire de la cour d'Attila, qui lui-même était roi des Huns. Dès lors, le vaste empire fut morcelé, profondément divisé, conformément à la prophétie. Nous constatons que Babylone, jusqu'aux Romains, le royaume qui renversait le précédent grandissait. Mais pendant la chute de l'Empire romain, celui-ci s'est divisé. Et la majorité des commentateurs voient avec raison dans les 10 orteils de la partie inférieure de la statue l'image de la dislocation de l'Empire romain. Nous évoquerons cette particularité lorsque nous parcourrons les chapitres 7 et 11 de Daniel. Mais en attendant, il y a une question que nous pouvons nous poser. Si Daniel n'a pas écrit le chapitre 2 sous l'inspiration de l'Esprit-Saint, comment aurait-il pu savoir, 10 siècles à l'avance, que le 4e empire succédant à celui d'Alexandre le Grand finirait par être divisé? Daniel est d'une grande précision et l'histoire lui donne raison de façon magistrale. L'abbé Jules Fabre d'Envieux, docteur et professeur à la Sorbonne, a publié un ouvrage sur les prophéties de Daniel. Je vous présente quelques lignes. Nous pouvons conclure que Daniel a eu des intuitions prophétiques qui ont été, avec raison, rangées au nombre des oracles les plus remarquables de l'Ancien Testament. Dans ce genre d'inspiration, Dieu donne des lumières qui dépassent la mesure ordinaire des révélations prophétiques. Aussi, croyons-nous pouvoir appeler Daniel le plus grand des prophètes qu'ait eu le peuple hébreu.
Mais cette prophétie annonce aussi la destruction du monde.
Oui, la destruction de ce monde et la création d'un nouveau monde. Lisons les versets 44 et suivants du livre de Daniel. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Alors, le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel et il ordonna qu'on lui offrît des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux » et le Seigneur des rois. Et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. Dans les prophéties de la Bible, chaque détail a son importance. Et à travers cette prophétie, la tête est d'or. Et les métaux sont d'une valeur décroissante pour en arriver au fer mêlé à l'argile. Et pour finir, la pierre détruit cette statue. Dieu veut nous montrer que les royaumes terrestres arrivent à leur fin. Ils ont commencé par briller et durant les siècles, ils dégénèrent. Devant l'échec de ces nations à faire régner ici-bas la paix et l'harmonie, Dieu s'apprête à agir de façon décisive. Son intervention est illustrée par la pierre qui brise la statue. Autrement dit, Dieu va anéantir toutes les puissances de ce monde pour laisser place à un royaume éternel dont il sera le souverain.
Et comme nous l'avons vu dans l'une de nos précédentes émissions, la pierre est évidemment le Christ.
Oui, ce Christ qui, lors de sa première venue, dit à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Tiré de l'évangile de Jean, chapitre 18, verset 36. Alors il n'y a pas de doute possible. La pierre qui frappe la statue et la réduit en miettes représente la fin de ce monde qui coïncidera avec le retour du Christ.
Alors avec les textes précédents, nous avons vu la fin de cette prophétie qui couvre quand même 2500 ans d'histoire et qui se termine sur cette espérance du retour du Christ. Que verrons-nous la prochaine fois ?
Eh bien, la prochaine fois, je vous propose de revenir sur ces détails des pieds et les orteils d'argile et de fer de la statue.
Alors, à la prochaine fois.
Merci, Gaël. Au revoir.